Et quelqu'un dira, comment ressuscitent les morts et avec quel corps viennent-ils? Insensé, ce que tu sèmes n'est pas vivifié s'il ne meurt. Et quant à ce que tu ne sèmes pas le corps qui sera, mais le simple grain de blé, comme il se rencontre, ou de quelques-unes des autres semences. Mais Dieu lui donne un corps comme il a voulu, et à chacune des semences son propre corps. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est celle des hommes, autre la chair des bêtes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Et il y a des corps célestes et des corps terrestres, mais différente est la gloire des célestes et différente celle des terrestres. Autre la gloire du soleil, et autre la gloire de la lune, et autre la gloire des étoiles, car une étoile diffère d'une autre étoile en gloire. Ainsi aussi est la résurrection des morts. Il est semé en corruption, il ressuscite en incorruptibilité. Il est semé en déshonneur, il ressuscite en gloire. Il est semé en faiblesse, il ressuscite en puissance. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y en a aussi un spirituel. C'est ainsi aussi qu'il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam, un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, mais ce qui est animal. Ensuite, ce qui est spirituel. Le premier homme est tiré de la terre, poussière. Le second homme est venu du ciel. Tel qu'est celui qui est poussière, tels aussi sont ceux qui sont poussière. Et tel qu'est le céleste, tels aussi sont les célestes. Et comme nous avons porté l'image de celui qui est poussière, nous porterons aussi l'image du céleste. Or je dis ceci, frères, que la chair et le sang ne peuvent pas hériter du royaume de Dieu, et que la corruption non plus n'hérite pas de l'incorruptibilité.
Père, qui agissait à Corinthe, parlait d'autres noms, comme si il y avait seulement une résurrection des âmes, mais nous n'en savons pas davantage. En tout cas, c'est le sujet de la résurrection des corps, qui nous a été présenté dans le premier paragraphe comme une vérité fondamentale du christianisme, parce que s'il n'y a pas de résurrection des corps, il n'y a pas eu de résurrection de Christ, il n'y a pas eu d'œuvre de salut. Par conséquent, l'évangile chrétien est vain, la prédication est vaine, et la prédication des apôtres, et y compris celle de Paul, et même au premier chef, sont des prédications menteuses. Toute la doctrine du christianisme s'effondre. C'est ce qui nous a été présenté, je le répète, dans le premier paragraphe, avec déjà à la fin de ce premier paragraphe, avec les deux derniers versets, la mention des conséquences pratiques que cela entraîne. Non seulement la doctrine chrétienne est minée à la base, mais toute vie qui se réclamerait de Christ, la vie chrétienne, la vie pratique, se trouverait être un non-sens, une absurdité, si il n'y avait pas de résurrection. Et c'est ce sujet-là qui est continué, qui est repris dans le premier paragraphe qui a été lu aujourd'hui, c'est-à-dire des versets 29 à 34, après ce que nous avons eu le privilège de considérer ensemble vendredi dernier, la merveilleuse parenthèse des versets 20 à 28, qui introduit là l'affirmation du fait qui pouvait être et qui était nécessairement mis en doute si l'on acceptait qu'il n'y ait pas de résurrection des morts. L'affirmation divine, par une révélation spéciale qui nous est donnée ici, est du fait que non seulement Christ a été ressuscité, mais que du moment qu'il l'a été, tous ceux qui lui appartiennent, qui croient en lui, sont liés à lui dans une vie de résurrection et seront ressuscités comme il l'a été, ressuscités par la même puissance, savoir la puissance divine, celle de Christ lui-même, celle du Père, par la gloire du Père, celle du Saint-Esprit, vivifiée par le Saint-Esprit, à la gloire de Dieu. Et alors, sont présentées les conséquences, les résultats cette résurrection de Christ, la liaison avec tout l'accomplissement des pensées de Dieu à l'égard de la terre, à l'égard de la création de tout l'univers, finalement, et nous conduisant par-delà le royaume qui doit s'établir sur la terre à la gloire de Dieu, jusque à ce qui est appelé la fin, quand toute principauté, autorité, puissance auront été abolies, quand tous les ennemis ayant été mis sous les pieds de l'homme ressuscité, glorifié, c'est-à-dire Jésus, auront été aboli, et le dernier ennemi qui sera aboli, c'est la mort. Et c'est alors l'ouverture, si on peut parler ainsi, de l'état éternel, le royaume remis par Christ à Dieu le Père, le Fils lui-même étant assujetti à celui qui lui avait assujetti toute chose, et Dieu, alors, Dieu dans sa plénitude, étant tout en tous. Et quant à la mort, la grande parole d'Apocalypse 21, et la mort ne sera plus. Alors nous revenons maintenant à l'état pratique ceux qui, croyant en Jésus, croyant au Seigneur Jésus comme Sauveur et le reconnaissant comme leur Seigneur, s'ils sont conséquents, vivent dans ce monde en ayant devant eux la perspective, l'assurance, la certitude, la glorieuse espérance de ce moment où ils seront faits semblables à lui. Et particulièrement, même s'ils pensent à la mort, même si la mort doit intervenir, comme elle est intervenue pour d'autres déjà, ceux qui sont endormis, la certitude de la résurrection. Et l'apôtre parle d'abord de ceux qui sont baptisés pour les morts, c'est-à-dire de ceux qui prennent place dans les rangs des croyants, de ceux qui se réclament de Christ comme prenant la place de ceux qui sont endormis. Ils sont baptisés au nom du Seigneur Jésus. Ils revêtent la profession chrétienne, et ainsi ils sont baptisés pour des morts. Si les morts ne ressuscitent pas, que signifie cela? Et ensuite l'apôtre parlera de lui-même et de ceux qui, comme lui, bravent le péril, sont mis à mort tout le jour, chaque jour, meurent chaque jour, sont exposés à la mort et agissent comme si véritablement ils devaient mourir ce jour-là pour le témoignage du Seigneur Jésus. Et qu'est-ce que cela signifierait s'il n'y avait pas de résurrection des morts? Relis directement au verset 18, se rapportant à ceux qui sont endormis en Christ. Verset 18 disait, s'il n'y a pas de résurrection, si Christ n'a pas été ressuscité, alors ceux donc aussi qui sont endormis en Christ ont péri. Et s'il n'y a pas de résurrection des morts, ils ont péri. Il n'y a pas d'espoir de salut pour eux. Inutile de parler de vie éternelle. Alors, verset 29, si vraiment les morts ne ressuscitent pas, pourquoi d'autres viennent-ils prendre la place de ceux qui sont morts? Et le verset 30 se relie directement au verset 19. Il ne s'agit plus des morts, de ceux qui sont endormis, mais de ceux qui disent, qui sont vivants sur la terre. Si pour cette vie seulement nous avons espérance en Christ, nous sommes plus misérables que tous les hommes, parce que nous souffrons pour ce nom de Christ.
De la force de cette expression, baptisé pour les morts, quand on se souvient que les martyrs se succédaient, que les persécutions les unes après les autres, eussent pu accabler la foi des saints quand il s'agissait de prendre place comme en première ligne. Ceux qui ont fait la guerre de 14, et il y en a encore quelques-uns ici, savent bien quelle responsabilité c'était. Et quel serrement de cœur quand la première ligne avait été fauchée et qu'il fallait prendre la place de ceux qui étaient là, gisant dans la tranchée ou entre les tranchées. Eh bien, c'est la même chose que nous avons ici. Et c'est propre à nous faire entrer dans la force de la démonstration de l'apôtre. Baptisé pour, on est baptisé pour Christ, et ainsi on revêt Christ. C'est Galates 3. Baptisé pour revêtir la livrée du Christ, montrer que désormais on lui appartient. Baptisé pour les morts, c'était affirmer sa foi en celui qui les ressuscite et prendre d'un cœur décidé par la foi que Dieu donnait la place de ceux qui n'étaient plus des témoins pour la terre. Ananias vient et apporte à Saul, converti, le message du Seigneur. Il contenait cette expression solennelle, je lui montrerai combien il doit souffrir pour mon nom. Et c'est à cela que l'apôtre se réfère quand il parle de son mourir de tous les jours. Il n'y avait pas seulement l'application de la mort à la chair, mais quant au côté moral de la chose, mais il y avait ce fait qu'il était constamment en danger. Et quand nous lisons la fin du chapitre 11
de la seconde aux Corinthiens, nous voyons par où, par quoi il a été il a dû passer, comment son être tout entier a réalisé jour après jour cette souffrance et cette détresse. Il avait combattu contre les bêtes à Éphèse. Et cela n'a pas seulement un sens moral, pourtant, ici, il y a une allusion à ce fait que tout était déchaîné contre lui.
Peut-être serait-on tenté de penser que dans les jours actuels où on laisse les croyants bien tranquilles, ce passage n'a plus pour eux, n'a pas pour eux de force. Ce serait une profonde erreur. Cette affirmation, elle n'est pas liée à une certaine période du christianisme, elle est liée à la condition du chrétien dans tous les temps sur la terre, tant que l'Église n'a pas été enlevée. Elle garde donc pour nous la même force, en principe, qu'elle avait pour Paul et ses contemporains, qu'elle a eu pour ceux qui, au cours des siècles, dans ces régions et dans d'autres, n'ont pas craint de s'avancer, de réaliser ce que c'était que d'être baptisé pour les morts. Et il y a sûrement, dans ces versets, une profondeur d'instruction spirituelle et morale qu'il nous convient, si nous aimons le Seigneur, sur laquelle il nous convient, si nous aimons le Seigneur, si nous ne l'aimons pas tout en étant à lui, il n'y a plus rien à dire. Mais si nous l'aimons, il nous convient de méditer avec soin la profondeur de ce qui est déclaré ici. Pour Paul, devenir un chrétien, pour ses contemporains, pour d'autres dans d'autres temps, pour d'autres chrétiens de nos jours dans d'autres pays, être chrétien, le dire, l'affirmer, manifester sa foi, c'est immédiatement se placer sous les menaces, plus que les menaces, sous la puissance de l'ennemi conduisant les hommes à se lever contre ceux qui sont les témoins du Seigneur. On ne menace pas nos vies aujourd'hui. Il n'en est pas moins vrai que nous sommes tous les jours responsables de réaliser ce qui est dit en Romains 6, à quoi sera tâche que nous venons de lire comme on nous l'a rappelé. Nous avons été baptisés pour Christ dans sa mort, identifié avec lui dans sa mort. Quant à ce monde, Christ est mort et il n'a plus rien à faire avec lui, nous avons à réaliser cette mort seulement, pour nous, cela peut nous coûter. Et si la violence ne nous menace pas, le mépris du monde, inévitablement, nous le connaîtrons si nous nous appliquons à réaliser la mort, comme il se doit ici, c'est-à-dire, au fond, la séparation du monde, la séparation pratique du monde, sans orgueil ni quoi que ce soit de conventionnel, mais dans la puissance de l'esprit et de la vie de Christ que nous avons en nous. Si nous ne connaissons pas plus ou moins cela, et nous pouvons même être appelés à le connaître même dans les rassemblements des saints, eh bien nous dormons. Et tout ce paragraphe du verset 29 à 34 peut avoir une force particulière pour le témoignage de ces jours-ci. La résurrection est le seul remède contre la mort. Mais tant que nous sommes dans nos corps, nous avons inévitablement à rencontrer toutes sortes de questions et d'épreuves, parce que ce corps dans lequel nous sommes, ce corps, le moi qui est en nous, il est toujours là, c'est notre premier ennemi, c'est à son égard que nous avons avant tout à réaliser que nous avons été baptisés pour les morts, que nous avons été, que le moi a été enseveli, a été condamné entièrement, entièrement condamné, et que notre devoir, c'est de le traiter comme tel. Ça n'est pas si facile que cela.
Question de renoncement à soi-même et qui serait impossible non seulement à réaliser, mais même à envisager si ce renoncement n'avait pour cause et pour objet Christ lui-même. S'il s'agit de cette mort journalière, c'est ce que l'apôtre appelle dans le chapitre 4 de la seconde épître aux Corinthiens, la mort de Jésus, portant toujours partout dans le corps la mort de Jésus. Et ce qui est appelé à se manifester, au contraire, en contrepartie, si on peut parler ainsi, c'est la vie de Jésus, la vie aussi de Jésus. C'est ce qu'exprime figurativement le baptême, comme cela vient de nous être rappelé à deux reprises, baptisé pour la mort du Seigneur Jésus, la ressemblance de sa mort et puis la ressemblance de sa résurrection. C'est donc l'attachement vital, la réalisation de cette association dans laquelle la résurrection de Christ place les siens avec lui, dans la puissance d'une vie nouvelle, victorieuse de la mort, que se trouve la clé de tout ce que nous avons là. Et c'est ce qui distingue entièrement un comportement comme celui que dépeint ici l'apôtre de ce que l'on trouverait parmi les hommes, c'est-à-dire l'attachement à une idée ou à un principe ou à tel homme dans ce monde, allant jusqu'au sacrifice de soi-même, mais c'est alors du fanatisme. Ici, il n'y a rien de fanatique. Et il y a la mort et la vie d'un autre auquel nous participons, dans lesquels nous nous trouvons placés, dont nous sommes appelés à manifester la réalité, le fait, de sorte que le chrétien, à la différence de bien des fanatiques ou des exaltés de toute manière, le chrétien ne va pas de lui-même dans une présomption qui serait vite réduite à néant, au-devant d'un ennemi en le provoquant. Non, c'est dans l'obéissance, c'est dans la dépendance, c'est selon que Dieu le permet pour lui. Paul est livré à la mort chaque jour, mais c'est Dieu qui le livrait à la mort. Et alors il portait dans le corps la mort de Jésus.
L'exemple de Paul est exceptionnel. D'abord, quant à la profondeur des épreuves qu'il a connues, et quant à la durée de l'état, de cet état de combat dans lequel le Seigneur l'a tenu. D'autres martyrs, leur épreuve a pu durer, quelquefois simplement quelques jours, la prison étant suivie rapidement de la mort, de la mise à mort. Quoi qu'il en soit, cela revient quand même. Et quant à nous, l'épreuve et le combat, bien sûr, sont à livrer tous les jours, parce que c'est tous les jours que nous avons affaire, tant que nous sommes d'ici-bas, à des ennemis qui ne nous pardonneront jamais. Tout ce qui est en nous, notre orgueil, il faut le regarder de façon précise, n'est-ce pas? Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas persécutés que le christianisme n'a pas pour nous, n'est pas pour nous aussi nécessaire et qui n'apporte pas les mêmes ressources. Notons, insistons encore sur le fait, en passant, que la puissance de Paul, comme la puissance de tous les fidèles qui ont suivi, qui ont honoré le Seigneur dans ce chemin-là, c'est, là, comme on nous l'a dit, c'est Christ lui-même réalisé dans le croyant par l'action du Saint-Esprit en lui, dans le nouvel homme. Tout est toujours du Saint-Esprit. Il ne s'agit pas ici d'une position établie, elle l'est. Rien ne peut nous séparer de Christ. Pratiquement, toutes sortes de choses nous en séparent. Le Saint-Esprit est la seule puissance de la vie divine dans le chrétien. Nous avons donc à considérer les uns et les autres. Et nous insistons en pensant à ceux qui commencent leur carrière dans un monde qui ne leur sera pas en aide, non pas en les persécutant, semble-t-il, mais en exerçant à leur égard des puissances peut-être beaucoup plus dangereuses. Ah, nous insistons sur ce fait-là, que nous avons donc tous les jours à veiller à faire des progrès dans la réalisation de cette mort quant à ce que nous sommes par nature. Nos qualités comme nos défauts, exactement. Non pas ces choses nécessairement les convoitises et passions grossières, pas nécessairement. Il y a beaucoup de choses que nous tolérons, que nous encourageons en nous et parmi les uns vis-à-vis des autres, que si nous étions plus spirituels, nous considérions comme des choses à condamner et à éliminer le plus tôt possible. Un chrétien peut être irréprochable et pourtant en très mauvais état en présence du sujet qui nous occupe. Cela nous arrive à tous. C'est le triomphe de la vie sur la mort. Nous pouvons, dans une mesure et qui devrait être progressive, réaliser la mort parce que nous avons la vie divine et le Saint-Esprit. Sinon, ce serait, comme on nous l'a dit, de la folie. Le christianisme pratique n'est pas du tout pour les professants. Ils s'en emparent, ce n'est pas pour eux. Encore moins pour les inconvertis déclarés.
Nous apparaît important, placé tel que nous l'avons ici dans ce chapitre, en rapport avec la résurrection des corps. Notre attention a déjà été attirée sur la signification particulière du corps du chrétien, de l'emploi que il a à faire de ses membres, de ses facultés, de ses forces, de tout ce qui est propre au corps dans lequel, bien que ce corps appartienne encore à la vieille création, la vie nouvelle, la vie de résurrection, la vie de Christ est placé. C'est ce qui donne au corps du chrétien un caractère, une signification unique. Dans d'autres passages de cette même épître, au chapitre 6 en particulier, nous savons comment l'Esprit de Dieu insiste sur ce fait que nous avons un corps pour glorifier Dieu dans ce corps. Vous avez été achetés à prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps. C'est un corps qui a été racheté, mais sa rédemption, nous ne l'avons encore qu'en espérance. Nous attendons l'adoption, la délivrance de notre corps. Non pas, nous n'attendons pas d'être délivrés de notre corps, d'être délivrés d'une prison nous ne pouvons pas supporter. Ce n'est pas cela. C'est notre corps lui-même qui sera délivré, qui connaîtra la délivrance que nos âmes sont appelées à connaître déjà. Alors, comment l'employer sur cette terre? Ou bien pour sa propre satisfaction, pour ce qui est appelé les convoitises de la chair, mais les convoitises du corps. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. S'il n'y a rien d'autre, s'il n'y a pas d'autre horizon, s'il n'y a pas de résurrection des morts, mangeons et buvons. Mais si nous réalisons quelque peu que nous sommes laissés avec nos corps sur la terre, avec ce qu'il faudrait considérer comme une prérogative, comme un privilège unique, employé pour servir Dieu, un corps qui a été jusqu'ici entièrement asservi à l'ennemi. C'est l'enseignement du chapitre 6 des Romains, de sa dernière partie. Quand vous étiez ignorant de Christ, eh bien, vous livriez vos membres au péché. Le péché régnait sur vous, il régnait sur un corps mortel. Et le péché régnait par la mort. Mais vous avez été affranchi. Vous avez été délivré de cet esclavage. Et vous avez été asservi à Dieu. Alors livrez vos membres à la justice, comme esclaves, pour l'obéissance à Dieu. Dans des corps ressuscités, il n'en sera plus ainsi. Il n'y aura plus de combat, il n'y aura plus de ces luttes, il n'y aura plus de ces dangers, il n'y a plus de tout ce qui vient de nous être si justement rappelé. Et de la puissance de l'ennemi, il ne sera plus question en aucune manière. C'est maintenant que nous avons à glorifier Dieu dans notre corps d'une manière particulière. Et plus que cela, nous est-il dit dans le chapitre 12 des Romains, nous avons à offrir nos corps en sacrifice vivant, ce qui est notre service intelligent. Comme un sacrifice, comme un service d'adoration continuelle. Alors on comprend que dans le passage que nous avons sous les yeux, les accents de l'apôtre soient aussi forts. Mais réveillez-vous, ne soyez pas séduits, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ces choses qui vous paraissent sans grand danger, que des gens aient des pensées particulières sur la résurrection, disent qu'il n'y a pas de résurrection de mort après tout, ça ne nous empêche pas vivre comme chrétiens. Attention, c'est une mauvaise compagnie et inévitablement la fausse doctrine entraîne une déviation morale et peut-être choses non seulement extrêmement regrettables, mais pire que les péchés ordinaires du monde. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alors, réveillez-vous, ne vous laissez pas entraîner. Prenez garde, ne laissez pas l'ennemi faire son œuvre. Il est encore temps. Réveillez-vous pour vivre justement et ne péchez pas. Car quelques-uns sont dans l'ignorance de Dieu, je vous le dis à votre honte. À votre honte, d'une manière d'autant plus forte, que vous ne manquez pas de connaissances et de dons de connaissances, et que vous vous en glorifiez de votre connaissance, et qu'elle vous enche. Or, vous êtes dans l'ignorance, il y a quelques-uns d'entre vous, qui sont dans l'ignorance complète de Dieu, ignorance de Dieu, et en particulier ceux qui nient la résurrection.
Encore une fois, nous ne confondons pas le corps avec le vieil homme. Notre condition présente reste complexe. Le corps et ses facultés peuvent être employés soit par le vieil homme, soit par le nouvel homme. De la même bouche, on peut honorer Dieu et être en bénédiction à son prochain. De la même bouche, on peut déshonorer Dieu et même l'homme. Un chrétien authentique. Le vieil homme a été crucifié. Et notre corps sera changé. En attendant, la vie divine doit se manifester par l'emploi des facultés à la gloire de Dieu. Et sans chose extraordinaire. La fidélité, une vie chrétienne simple et fidèle, est une valeur incomparable. Quant au vieil homme, nous avons le droit de le tenir pour mort. Nous insistons sur cela. Et c'est parce que le châtiment de Dieu sur le vieil homme, nous n'avons pas seulement des péchés, mais nous avons une source de péchés, c'est le vieil homme. Nos péchés ont été portés pour les croyants en son corps sur le bois, mais le vieil homme aussi a reçu le châtiment de Dieu, car Dieu s'occupe de l'arbre même plus que des fruits. De la source plus que des conséquences. Il n'a pas pardonné. Il pardonne un croyant quant à ses péchés, mais il ne pardonne aucun croyant quant au vieil homme. Tout le vieil homme est entièrement condamné. Dans Romains 8, il n'y a pas de pardon pour la chair au vieil homme. Pas du tout. Heureusement. Donc, nous n'avons pas à être troublés par l'existence en nous d'un être qui est toujours opposé à Dieu. Après 20 ans, 40 ans de vie chrétienne, c'est toujours la même chose. Non, pas en être surpris. C'est à son sujet que tant d'instructions nous sont données, surtout dans les Romains et aussi Galates et ailleurs, pour que cet ennemi mortel, eh bien, nous puissions faire des progrès dans la façon de le maîtriser. C'est là aussi le secret des progrès chrétiens. Le vieil homme nous porte toujours vers le monde, c'est laideur comme c'est splendeur, tout pareillement. Mais nous sommes donc, c'est sûr à l'égard du vieil homme que nous avons à pratiquer la mort, à réaliser qu'il est mis à mort. Et cela nous amène, cela se fait par la réalisation des renoncements dont le corps peut avoir à souffrir. Et n'oublions pas non plus, je termine pour le moment, n'oublions pas non plus que chaque dimanche, quand nous prenons la scène, non seulement nous proclamons que Christ est notre vie, mais nous sommes identifiés, n'est-ce pas, nous sommes identifiés avec le pain, avec le vin, c'est-à-dire avec sa mort. Nous perdons cela de vue. Nous sommes des morts quant à tout l'état du vieil homme, du premier Adam, qui continue à faire ses exploits de nos jours.
Intéressant de souligner l'importance de ces exhortations pratiques, ne soyez pas séduits, ainsi que celle du verset 34, réveillez-vous pour vivre justement et ne péchez pas. Il est remarquable de voir ces exhortations très pratiques au milieu de tout un développement doctrinal concernant la résurrection, et plus spécialement la résurrection du corps. Eh bien, dans tout ce vaste enseignement doctrinal, au beau milieu de cet enseignement, nous avons ces exhortations toutes pratiques qui découlent, bien entendu, de l'enseignement doctrinal qu'il est donné à l'apôtre de nous communiquer. Ne soyez pas séduits, réveillez-vous pour vivre justement. Cela est très important parce que on a facilement la tendance de minimiser l'importance d'un mal doctrinal. Quand surgit l'énoncé d'une fausse doctrine, on en arrivera facilement à dire « Et après tout, est-ce qu'on ne serait pas libre de penser ce que l'on veut ?» C'est très grave de s'exprimer comme cela. Il est remarquable de voir que, on vient de l'entendre, au mal doctrinal s'associe en général toujours le mal moral. Le moins qu'on puisse dire, c'est que celui qui énonce des fausses doctrines est dans un état d'âme mauvais. Sa conscience n'est certainement pas en ordre avec Dieu, et quand il a fallu vivre des moments pénibles, semblables dans l'histoire du témoignage, on s'est aperçu tôt ou tard que l'état moral de la personne en question n'était certainement pas bon. Ainsi donc, nous avons là ces exhortations, nous le répétons, découlant de l'enseignement doctrinal de l'apôtre, mais nous avons ces exhortations là, au milieu de ce vaste enseignement doctrinal, ce qui nous montre que, en général, le mal moral accompagne le mal doctrinal, et cela fait ressortir l'importance du mal doctrinal. Nous n'avons pas à minimiser un faux enseignement contraire aux pensées de Dieu. Nous avons à prendre garde à cet égard. Il est très frappant de trouver cette parole. Ne soyez pas séduits. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs au milieu d'un chapitre tel que ce chapitre 15 de 1 Corinthiens.
Cela revêt un caractère impératif. Ce ne sont pas des considérations morales auxquelles on doit souscrire. Si on a la connaissance de Dieu, si on connaît Dieu selon son caractère, ces choses s'imposent au cœur. Rappelons le passage de Galates 2 auquel il a été fait allusion. Nous avons dans ces exhortations dont on comprend l'importance quand on voit le développement qu'a pris l'enseignement de la loi et le respect pur et simple de ses commandements sans que la foi y soit mêlée, nous avons cette affirmation. L'apôtre disant « Je suis crucifié avec Christ. » Là, la chair est vue selon son vrai caractère et le privilège nous est accordé selon ce que nous avons au chapitre 4e ou 5e, ceux qui sont du Christ ont crucifié la chair, avec ses passions et ses convoitises. Quand est-ce que cela a eu lieu? Eh bien, au moment où Christ a pris possession de notre âme, et nous avons eu, par l'action de la parole et de l'esprit, la vie du Christ en nous. Cela s'est réalisé à ce moment-là, et c'est à vivre dans la considération de la place où Dieu a dû mettre notre vieil homme, nous-mêmes, en tant que liés au péché, je suis crucifié avec Christ.
Nous n'avons eu aucune part dans la condamnation du vieil homme. Mais nous avons le devoir de faire mourir les actions du vieil homme. Quand elles se manifestent, quand les tendances du vieil homme se manifestent, et aucun d'entre nous ne saurait nier que c'est tous les jours plus ou moins, que faire? Confesser le manquement et retrouver la communion avec le Seigneur. Le mal disparaît de la vie du chrétien ainsi. Mais le fait que le vieil homme ait été crucifié ne nous libère jamais d'un exercice constant devant Dieu, devant le Seigneur, toute notre vie. Et c'est une des victoires de Satan d'engager les saints à se reposer paresseusement sur ces précieuses déclarations d'Écriture et leur laisser entendre qu'ils peuvent tout se permettre. Ça n'est pas vrai. Toutes les chutes chez les chrétiens ont pour origine l'oubli de la vérité fondamentale que nous avons à veiller sur nous, nous sommes responsables, et à faire mourir les actions de la chair, les tendances, pas nécessairement grossières, la vanité, l'orgueil, l'amour du monde, l'égoïsme, tout cela. Tout sont des choses que nous connaissons très bien, trop bien, hélas, tous. Et sont elles qui sont la source de maux innombrables dans la vie de chaque croyant et dans la vie du témoignage. C'est la seule source. Et encore, dans un mot encore sur une expression surprenante, vous êtes dans l'ignorance. C'est dit à qui est-ce là? À des chrétiens. Les inconvertis, cela n'étonne pas. L'ignorance de Dieu, qu'est-ce que cela veut dire? Et qu'est-ce que c'est que la connaissance de Dieu? Comment connaissons-nous Dieu? La connaissance de Dieu, c'est la jouissance par l'esprit de ce qu'il est, de son être. Et on goûte ce qu'est Dieu, lumière, amour. Un chrétien, quand il vit avec le Seigneur, qu'il marche avec lui, il a horreur du mal. On n'a pas besoin de le lui dire. Personne ne peut lui dire comme le Saint-Esprit qui est en lui et qui n'est pas contristé. Il connaît Dieu, pratiquement. Il ne s'agit pas de le connaître pour savoir qu'on ira au ciel, mais c'est dans la vie quotidienne, notre christianisme est quotidien. La vie d'une assemblée dépend du comportement quotidien de chacun de ceux qui la composent. Et supposons qu'un chrétien se lève peu à peu du fait du milieu dans lequel il vit, évolue, travaille, qu'il se laisse peu à peu influencer par son entourage. Inévitablement, vous verrez son niveau spirituel baisser. L'intelligence, la recherche de ce qui est du Christ, il aura baissé. Les choses du monde auront pris une place. Et dans cette mesure, ça c'est Christ. Il connaît moins Dieu. Le sentiment que Dieu est lumière s'affaiblit. La conscience devient moins délicate. C'est l'explication de la ruine de l'Église et de la ruine de tous les croyants qui n'ont pas pris garde aux enseignements de la parole. On peut tomber dans l'ignorance de Dieu. On nous parlait tout à l'heure des hérésies. C'est une chose très remarquable que sans que nous ayons eu à faire de nos jours à des hérésies de première importance, c'est une chose remarquable de constater dans quel égarement se trouvaient des frères autrefois pourtant qualifiés. Un frère qualifié ou une sœur peut très bien être emporté très loin, et quelles en sont les causes ? Peut-être des relations avec des milieux, répétons ce qui a été écrit à ce sujet, avec des milieux avec lesquels le Saint-Esprit n'a pas communion. Des milieux avec lesquels le Saint-Esprit n'a pas communion, tous ces milieux-là sont dangereux pour un chrétien. Mais il suppose aussi qu'un chrétien vive avec lui-même sans chercher à vivre avec le Seigneur, et sans dégager, il peut en arriver à être rempli d'orgueil. C'est souvent le cas, et il n'est peut-être pas un mouvement hérétique dont les promoteurs, une fois ou l'autre, aient fait preuve d'un orgueil absolument insoutenable, extraordinaire, alors qu'on avait pu les connaître dans notre jour, dans un état tout différent. Cela nous montre que notre état, s'il est plus ou moins bon à un moment donné, ne se conserve pas tel de lui-même. On ne vit pas sans foi, sans la foi. Nous marchons par la foi, c'est-à-dire en nous appuyant sur Dieu. Nous sommes les créatures les plus dépendantes qui soient, quelque fidèles que nous puissions être. Et nous ne pouvons pas être fidèles sans être dépendants. C'est solennel cette fin de ce paragraphe, de nos jours, très solennel. Chaque chrétien a affaire à veiller à ses relations, relations dans son travail, et un frère plus ou moins jeune, plus ou moins âgé, devient très vite aveugle quant à ce qu'est Dieu. À ce moment-là, il est dans l'ignorance de Dieu, et il est à la merci du premier vent qui souffle.
Tant donc d'être attaché au Seigneur. Je suis crucifié, s'il n'y avait que cela, il n'y aurait rien. Mais je suis crucifié avec Christ. Ceux qui ont crucifié la chair sont ceux qui sont du Christ. Combien tout cela est à la fois simple et important. Ceux qui sont appelés à mortifier leurs membres qui sont sur la terre, ce sont ceux qui sont ressuscités avec Christ. Chapitre 3 des Colossiens. Avec Christ. Tout le côté négatif de la vie chrétienne dépend de la mesure dans laquelle nous réalisons le côté positif. Comme il a été dit, quelqu'un qui se tient près du Seigneur, quelqu'un qui marche avec lui, est gardé de tant de choses affligeantes pour lui, déshonorantes pour le Seigneur. Marcher avec le Seigneur. L'apôtre disait le connaître, lui, et nous revenons ici exactement à un autre chapitre, à un autre passage, et la puissance de sa résurrection. C'est la puissance de la résurrection qui est celle dans laquelle marche le nouvel homme dans ce corps. Le vieil homme peut s'emparer, s'empare, hélas, du corps. Mais, normalement, c'est au nouvel homme à l'utiliser, à l'employer. Et ce ne peut être que dans la puissance de la résurrection. Puissance de la résurrection qui se confond avec la puissance de l'Esprit de Dieu, car c'est Jésus ressuscité qui a soufflé en ses disciples en leur disant « Recevez l'Esprit Saint ». Alors la puissance de la résurrection, pratiquement, c'est la foi, réalisons que le corps dans lequel nous sommes est un corps qui appartient à un Christ ressuscité et qui bientôt sera soit changé, soit transmué, soit ressuscité, mais en tout cas transformé à la ressemblance du corps glorieux du Seigneur Jésus. Et c'est là que pratiquement la foi doit s'exercer. Et c'est là aussi, ne pense-t-on pas, que se déploie d'une manière, ou est appelé à se déployer, d'une manière particulière et, on peut dire, glorieuse, effectivement, la puissance de la résurrection. Que des corps puissent être présentés en sacrifice vivant à Dieu, dès maintenant, des corps d'hommes. Est-ce que cela ne nous en dit pas long sur la valeur et l'efficace de l'œuvre de Christ et de la résurrection de Christ? C'est la vie de Christ, la vie de Jésus, dans des corps tels que les nôtres. On donne à chacun de peser la valeur de ce fait, n'est-ce pas? La vie de Jésus, la vie pure, la vie de l'homme parfait, la vie du Fils de Dieu, elle a été vécue ici-bas de la seule manière parfaite, pure, complète, sans aucune faille, en aucune manière, en Christ. Et c'était bien un homme qui participait au sang et à la chair. C'était l'homme parfait. Mais voici que cette vie même, cette même vie de Christ, elle est placée maintenant dans des corps tels que les nôtres. Elle est appelée à faire mouvoir jusque à la présentation à Dieu et au sacrifice vivant à Dieu, ses corps. Puissions-nous prendre davantage conscience que seule la puissance de la résurrection peut opérer cela, et que ce ne sera opéré que si nous n'avons devant nous que Christ et Christ seul.
C'est tellement vrai que ce qui vient d'être dit rappelle la parole. Nous trouvons, chacun connaît, si ton œil est simple, ton corps tout entier sera plein de lumière. S'il n'est pas simple, il est méchant. Le même texte le dit. Un œil simple, c'est un cœur qui a Christ pour objet. Un œil méchant, c'est un cœur qui a d'autres objets que Christ. Christ étant là, s'il est un chrétien, mais quelquefois Christ est enseveli sous des masses de décombres du monde. Ton corps tout entier sera plein de lumière. C'est vrai pour chacun, et on peut faire une application à chaque rassemblement local. Qu'est-ce que nous pouvons désirer dans chaque rassemblement local? Que la connaissance de Dieu, selon notre passage, croisse pour chaque âme. Que ce soit un des résultats du ministère, sûrement, peut-être le plus important. Que chaque âme soit rapprochée de Dieu davantage. Et alors la lumière entre dans les cœurs, dans les consciences aussi. Et le danger des divergences baisse d'autant. Comment se fait-il qu'il y en a de ces divergences dans les rassemblements des saints et qui ont une tendance à se manifester extérieurement dans les faits? Ce n'est pas normal. La communion n'est jamais réalisée que dans la lumière. Et c'est la lumière que nous avons à rechercher. Et les frères, les plus responsables spécialement, ont à veiller à amener ou à maintenir les âmes dans la lumière, à les ramener. C'est au fond la raison de tout ministère. Ramener ou maintenir les âmes dans la lumière. Dans la lumière, on connaît Dieu. On a Dieu, on a tout. Dans la lumière, on peut connaître, on connaît l'amour, le vrai amour. Pas l'amour comme on nous le prêche. Même des frères qui ont des tendances, certaines tendances, l'amour de Christ versé dans nos cœurs par l'Esprit Saint, c'est le seul que nous connaissions, que nous ayons à connaître. Ailleurs, il y est mêlé à autre chose, c'est du mélange. Il faut au sein l'amour pur de Dieu sans mélange. Et c'est donc l'état interne des saints, c'est sur cela que les frères et les sœurs, chacun à sa place, ont à veiller pour le bien de rassemblement local. Et nous en arrivons, si nous ne sommes pas exercés, à tolérer peu à peu des choses que 20 ans auparavant, nous aurions réprouvées. C'est un recul à l'envers, un progrès à l'envers. Et quand on nous parle du danger de l'étroitesse et du sectarisme, cela peut être, mais de nos jours, c'est plutôt difficile à voir. Et sous ce bon, c'est simplement une formule commode pour empêcher que ne s'exprime ce qui est gênant. La vérité de Dieu, la présence de Dieu, la connaissance de Dieu est toujours une chose gênante pour la chair. Que le Seigneur nous soit en aide, dans les assemblées. Et que ceux qui ont reçu de la lumière, c'est bien que le Seigneur leur donne de faire face à la responsabilité qui se rattache à ce qu'ils ont reçu. Chacun est responsable selon la lumière qu'il a reçue. Si nous avons dans notre cœur la conviction divine que telle voie n'est pas bonne, nous devons tenir une position inébranlable. Nous ne pouvons pas l'imposer à d'autres, mais notre devoir serait de résister jusqu'à la mort.
Le « réveillez-vous » du verset 34 montre, je reviens un peu en arrière, mais montre précisément que nous ne sommes pas caractérisés par la stabilité. Notre état d'âme peut être bon, même très bon en certains moments, mais en d'autres périodes, il peut être moins bon. D'où la nécessité de l'exhortation « réveillez-vous ». Pour vivre justement. Il est parlé donc de ces quelques-uns qui étaient dans l'ignorance de Dieu, comme on l'a dit, il ne s'agit pas de frères qui eussent ignoré qu'il existât un seul vrai Dieu, ils le connaissaient parfaitement bien. Mais ce qu'ils ignoraient, ce qu'ils n'avaient pas, c'était cette connaissance pratique, réalisée pratiquement de ce qu'est Dieu, un Dieu juste et un Dieu saint. Notre Dieu, notre bon Père, est un Dieu juste. Réveillez-vous pour vivre justement. Nous avons l'enseignement de Tite 2 également. Vivre sobrement, justement et pieusement. D'autre part, notre Dieu est un Dieu saint. Soyez saints, dit l'apôtre Pierre, dans toute votre conduite, comme moi, je suis saint, en citant la parole de Lévitique 19. Il y en avait qui ignoraient ainsi, qui n'avaient pas cette connaissance de Dieu. Et nous avons besoin, en effet, d'être exhortés, stimulés à cet égard, vivre pratiquement davantage selon la connaissance que nous avons de Dieu, de ce que Dieu est, juste et saint. Est-ce qu'il nous est permis de demander un éclaircissement en rapport avec le sujet de tout notre chapitre, en rapport avec le sujet de la mort, sur le passage de 2 Corinthiens 1, où il est parlé de la sentence de la mort. En 2 Corinthiens 1, nous avons au verset 9 ces paroles. Mais nous-mêmes, nous avions en nous-mêmes la sentence de mort, afin que nous n'eussions pas confiance en nous-mêmes, mais en Dieu qui ressuscite les morts, qui nous délivre, qui nous a délivrés d'une si grande mort, et qui nous délivre, et qui nous délivrera encore. De quoi s'agit-il dans cette sentence de mort?
Ne pense-t-on pas que l'on peut prendre la chose tout simplement comme ceci, l'apôtre se trouvait exposé de telle manière qu'il apparaissait à vue humaine impossible qu'il échappât à la mort. Comme s'il avait été un condamné sur, qui ait entendu sa sentence et celle-ci n'a plus qu'à s'accomplir, de sorte qu'il n'y avait aucun espoir humain, il abandonnait toute possibilité de vivre encore. Et alors, il n'avait aucune confiance quant à lui-même à cet égard, bien entendu, il ne pouvait échapper, et ses pensées ne pouvaient que se porter exclusivement sur celui qui avait la puissance de ressusciter entre les morts. Il était acculé, pour ainsi dire, à la mort, mais il le faisait, et c'est ce qu'il réalisera bien à la fin de sa carrière, non pas au moment dont il est parlé ici dans les Corinthiens, puisque là il a été délivré, mais à la fin de sa carrière, le dernier chapitre de Timothée, c'est bien cela, on peut dire qu'il a la sentence de mort, mais qu'il parle dans toute la puissance de la résurrection, victorieux de cette mort, désormais mais réservé, etc. N'est-ce pas? Pensez-vous pas que c'est...
La mort, il la rencontrait tous les jours, extérieurement. Son état intérieur était à la hauteur de cette rencontre. Non seulement elle se présentait à lui extérieurement, dans les faits, la méchanceté des hommes, mais il avait dans son âme le sentiment qu'il était un condamné à mort permanente, si on peut dire. Son état intérieur était là. Heureux homme. Qui pouvait-il craindre? Il craignait personne.
Mais sa confiance était en Dieu qui ressuscite les morts. Cette connaissance de Dieu qui ressuscite les morts, de tout temps, elle a été le privilège de la foi. Nous voyons ici appliquée aux circonstances propres de Paul, état extérieur, état intérieur et circonstances extérieures. La morale, mais pour moi c'est une question réglée, je connais Dieu qui ressuscite les morts. Mais nous pensons, n'est-ce pas, à une autre scène tout à fait différente, sans doute, mais où nous voyons la foi briller d'une manière bien remarquable, c'est quand Abraham a offert son fils, et il nous est dit également, en propre terme, en chapitre 11 des Hébreux, qu'il avait sa confiance en celui qui pouvait le ressusciter même d'entre les morts, d'où aussi en figure il le reçut. Abraham ne connaissait pas la résurrection comme nous sommes appelés à la connaître. La résurrection de Christ n'était pas encore accomplie, mais il en avait la figure devant lui, et sa foi nous est présentée comme la foi en Dieu qui ressuscite les morts. la foi est ainsi victorieuse de toutes les puissances contraires, toute la puissance de l'ennemi qui manie l'arme de la mort pour faire reculer et pour faire broncher le chrétien. C'est ce que l'apôtre a pu victorieusement établir, n'est-ce pas, la valeur, l'efficacité de la résurrection de Christ, à la fois gage et base et antécédent toute résurrection des morts, et spécialement ici, les questions dans ce chapitre, on y a insisté, de la résurrection des croyants, de ceux qui s'endorment en Christ. Alors, ayant établi ce fait de la résurrection, ayant préalablement, dans une discussion serrée du premier chapitre, établi par des témoignages et par l'écriture la réalité et la valeur de cette résurrection, en ayant tiré les exhortations si importantes et si remarquablement placées que nous venons de voir, l'apôtre maintenant va s'engager sur un terrain quelque peu différent, mais comme toujours, pour nous amener, pour amener les croyants à un élargissement de la révélation, à un élargissement de la vérité. Et c'est ce qu'on aura à la fin du chapitre, le dernier paragraphe. Mais il le fait en écartant quelques objections que l'incrédulité, ou dirions aujourd'hui le rationalisme, mettent en avant. Il examine des comment que certains peuvent présenter. Comment ces choses peuvent-elles se faire? C'est toujours la même question de l'esprit humain, prétendant nier ce que la parole affirme et le nier simplement au nom de ce que la raison humaine peut embrasser, peut concevoir, peut comprendre. Et alors, cette discussion d'ailleurs, elle tourne court, on peut dire, parce que immédiatement l'apôtre peut parler à son interlocuteur supposé, n'est-ce pas, en l'appelant insensé et en s'en référant simplement aux choses que précisément ses sens et sa raison qui agit sur les données de ses sens peuvent voir et dire. Mais regarde donc la nature, elle te fournit assez de figures, de types, pour te convaincre que ce que l'Écriture dit, ce que l'Évangile dit, ce que nous prêchons, n'est pas absurde comme tu le dis, bien au contraire, et dans la ligne même de ce que la création de Dieu vient démontrer. Seulement, il s'agit de choses d'un niveau tout différent, infiniment supérieur, mais qu'es-tu insensé pour pouvoir prétendre juger de ce que tu ne peux pas connaître, en juger d'après les quelques conclusions que ta raison tire d'observation que, reconnais-le, tu as faite de façon bien incomplète. assez remarquable, cette discussion de ces versets 35 à 44, pour introduire ensuite alors la vérité de Dieu, plus ça, et la pensée de Dieu, bien au-dessus, plus sage que toutes les pensées des hommes, et qui est la vérité. Comment ressuscitent les morts, et avec quel corps viennent-ils ? Insensé.
On ne ménage pas son interlocuteur supposé, son questionneur supposé. Cela nous surprend un peu. Peut-être pas tellement si nous y réfléchissons un peu. Nous sommes souvent nous-mêmes posés des questions. On nous en a posé. Des questions sur des quantités de sujets. Sur ce que sera le ciel, par exemple. Et combien d'autres. Au fond de tout cela, voilà pourquoi cette qualification d'insensé est donnée. Qu'est-ce qu'il y a ? Une curiosité toute humaine. Tandis que si nous jouissons de Dieu, du Seigneur, nous ne nous posons pas ces questions-là. Nous sommes satisfaits pour le moment, nous sondons l'Écriture, si elle nous éclaire bien, si elle ne nous éclaire pas nettement, nous attendons paisiblement, sans nous poser de questions. Cette tendance à poser des questions, auxquelles il est difficile de répondre, même avec l'Écriture, cette tendance, en général, n'est pas un bon signe. Quand on a Dieu dans son cœur, Christ dans son cœur, et qu'on marche plus ou moins avec lui, la question ne se pose pas. Pour le moment, j'ai ce que le Seigneur me donne, j'attends ce qu'il me donnera tout à l'heure. Je n'ai qu'à attendre. Nous sondons l'Écriture, nous en tirons ce que nous pouvons selon notre niveau spirituel, bien sûr, mais l'Écriture ne répondra pas à toutes les questions de la curiosité de l'homme. Et redisons encore une fois ce qui a été dit au sujet de cette tendance de la curiosité de l'homme. La curiosité est toujours charnelle.
Et le fait confine à l'incrédulité, car ces choses, pour nous, sont extrêmement simples. La foi que Dieu nous a donnée est en nous pour que nulle question ne vienne nous troubler, pour que nous connaissions celui qui ressuscite les morts et pour que nous ayons l'assurance. Je parle pour nous, chrétiens, qui avons la vie de Dieu, que nos corps mortels aussi connaîtront sa victoire, que ce en quoi la vie du Christ a pris place, ce tabernacle, disons, ce temple, que notre corps est pour le Saint-Esprit, Dieu ne peut pas le laisser dans la mort. Ce ne serait pas conforme à tous ses droits et à toutes ses voies. Avec quel corps viennent-ils ? Nous répondons, mais avec le corps même en lequel Dieu a placé sa vie. Il est clair que, alors, le corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et le mortel l'immortalité. Mais chacun de nous peut dire, et j'ajoute, nous ajoutons, chacun de nous doit avoir la conviction. Une conviction qui est basée sur ce que Dieu affirme. Que, ayant reçu par la foi et par grâce le salut de Dieu pour ce qui est de l'éternité, nous connaîtrons comme nous avons été connus dans le jour où nos corps auront connu la victoire, où la délivrance leur aura été accordée. C'est ce que l'apôtre Jude appelle « Attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle, quand corps, âme, esprit, tout sera sauvé dans sa journée. » Alors nier la puissance de Dieu qui ne peut pas rappeler à l'existence ces corps que la mer entièrement dissous, dont on peut dire que la poussière a été dispersée aux quatre vents, mais c'est proprement de l'incrédulité. C'est restreindre la puissance de Dieu s'il lui refusait ses prérogatives. Mais la suite de ce remarquable passage ouvre devant nous des horizons merveilleux, encore que nous ayons à réaliser cette simplicité de la foi qui s'attache à la parole et qui ne met rien en question.
Mais n'oublions pas aussi que cette simplicité n'est produite que par l'Esprit Saint. Ce n'est pas une vertu humaine. Ce n'est pas l'effet d'une éducation quelconque. C'est le Saint-Esprit qui produit tout. Et on nous dirait, mais vous êtes chrétien, oui. Vous êtes sûr, oui, parfaitement. Mais qu'est-ce qu'il y a de changé en vous? Je n'en sais rien. Et vous êtes chrétien, vous êtes, oui. Et qui vous l'a dit? Dieu lui-même. Il peut dire cela à un enfant de 10 ans. Donner cette assurance à un enfant de 10 ans. Un enfant de 10 ans peut connaître Dieu comme un vieillard, comme un vieux chrétien. Il en saura moins sur ce que Dieu peut faire, mais sa relation avec Dieu, elle est aussi vraie, réelle. Et toutes nos certitudes dans les choses de Dieu sont de qualité, de nature divine. Pas une n'est de nature humaine, heureusement.
Au début de l'Épître aux Corinthiens, on retrouve la même contradiction entre la prédication de l'Évangile et la sagesse humaine, sagesse de ce siècle. La sagesse de ce siècle appelant folie la prédication et le serviteur de Dieu et l'Esprit de Dieu par son serviteur appelant folie la sagesse de ce siècle. Or, dans ce premier chapitre de notre épître, il s'agit essentiellement de Jésus crucifié. Il s'agit de la croix. Il s'agit de la mort. Ici, c'est vis-à-vis de la résurrection, vis-à-vis de la résurrection des morts d'une manière générale, Satan voulant par là attaquer la vérité même de la résurrection de Christ. C'est vis-à-vis de cette doctrine de la résurrection des morts que s'élève la sagesse humaine et la réponse du Saint-Esprit par l'apôtre est la même. Folie de ce siècle. Insensé. C'est par l'Esprit de Dieu, comme il vient de nous être dit, que les choses de Dieu se connaissent. Nous avons reçu non l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui est de Dieu, afin que nous connaissions les choses qui nous ont été librement données par Dieu. Mais la sagesse humaine révèle en même temps toutes les fois qu'elle se trouve mise en présence de la révélation de Dieu, elle révèle son infirmité profonde, congénitale, n'est-ce pas, à savoir qu'elle ne sait même pas raisonner sur les faits qui sont placés devant elle. Tu demandes comment ressuscitent les morts, avec quel corps viennent-ils? Sous-entendu, ça paraît incroyable que les morts ressuscitent, et on ne peut pas avoir une idée corps qui doivent ainsi surgir de la mort. Bien, mais pourquoi ne regardes-tu pas ce que tu pratiques, mais constamment dans la création? Il n'est question que de la matière ici, n'est-ce pas, et des faits physiques qui sont placés devant nous. Tu sèmes. Tu sèmes dans l'espoir d'avoir des plantes, d'avoir des végétaux qui te seront utiles. Eh bien, ce que tu sèmes ne ressemble pas à ce qui se développera ensuite. Et pourtant, c'est le même végétal. Mais ce que tu sèmes a dû mourir. La semence va être dissoute, décomposée, il n'en restera rien. Mais quelque chose de nouveau, et qui cependant a eu son point de départ dans ce que tu as semé, surgira. Tu ne peux pas comprendre ces choses-là. Explique-les. Peut-être bien que les hommes, avec les générations passant, avec de nouvelles observations, avec les instruments dont l'humanité dispose maintenant, trouveront le moyen d'expliquer matériellement des transformations. Mais la cause profonde, mais la force qui anime tout cela, et finalement le comment de ces choses, est aussi ignoré, inconnaissable, du plus grand savant d'aujourd'hui, du biologiste le plus éminent, simple cultivateur de ces temps-là comme d'aujourd'hui, qui met son grain dans la terre et qui sait bien que le grain mourra, mais qu'il y aura une plante, et que cette plante, c'est le blé qui donnera, ou toute autre semence, et qui donnera son fruit. Insensé. Tu veux le comment de choses qui te dépassent, et tu ne peux pas donner le comment des choses dont tu t'occupes tous les jours.
C'est le verset 12 du chapitre premier de la Genèse qui ici est mis comme en évidence. Lorsque nous lisons au verset 12, « Et la terre produisit l'herbe, la plante, portant de la semence selon son espèce, et l'arbre produisant du fruit, ayant sa semence en soi, selon son espèce. » C'est assez remarquable de voir que lorsque ce récit de la création est présenté à notre foi, l'insistance de Dieu est que tout procède de lui et qu'il n'y aura point de changement. Pour ce qui est de l'apparence, pour ce qui est de la manifestation, nous dirions, pour ce qui est de ce corps dans lequel la vie de Dieu sera manifestée en résurrection, nous avons la réponse de Job. Il n'y avait pas encore beaucoup de choses révélées, mais quand il dit « Moi, je sais que mon Rédempteur et vivant. Après ma peau, il ne restera plus rien. Ceci sera détruit. Mais il ajoute, et sa foi triomphe, je le verrai, moi, pour moi-même. Mes yeux le verront, et non point un autre.
Une remarque en passant. Il semble qu'on ne l'a pas exprimé. C'est que pourquoi donc les hommes se sont-ils acharnés, s'acharnent-ils contre la résurrection? Elle les gêne donc tant que cela? Oui, elle les gêne. C'est que s'il y a une résurrection, il y aura un après qui suivra la résurrection. Or, les hommes cherchent à se bercer entre eux de l'assurance que quand on est mort, tout est mort. Tandis que la vérité de la résurrection dit tout le contraire. Et les hommes, beaucoup pensent, on ne sait pas ce qui se passe dans leur cœur, mais beaucoup aimeraient bien être sûrs que quand ils sont morts, toutes les questions seront réglées, alors que les plus graves se poseront après la mort. N'oublions pas cela, n'est-ce pas? Nous qui sommes, qui devons être des témoins de la vérité. Quel triste état que celui des hommes qui nous entourent. Et combien de fois peut-être nous les encourageons dans leur aveuglement, au lieu, par notre comportement, de leur faire sentir qu'ils sont entièrement dans une erreur qu'ils ne pardonnent pas.
Terrestre, à la portée des hommes et dans le domaine de ce travail de la terre auquel les figures sont ici empruntées, l'opération de Dieu, la puissance de Dieu devrait être vue par l'homme. Mais l'esprit de l'homme refuse, de l'incrédule, plus ou moins ouvertement, n'est-ce pas? Le rationaliste n'ira pas Dieu, mais en fait, il refusera de le voir dans ses œuvres. Ici, il y a un contraste remarquable entre ce que tu sèmes, ce que tu sèmes, tu ne sèmes pas le corps qui sera, mais le simple grain de blé, et puis ce que Dieu fait. C'est Dieu qui lui donne un corps, verset 28. Mais Dieu lui donne un corps comme il a voulu. Tu sèmes, et ensuite il y a une opération que tu ne peux pas expliquer. Et si tu refuses d'y voir la puissance divine, tu restes dans l'obscurité la plus complète. Tu n'as pas de comment à donner. Dans une certaine mesure, tu peux expliquer la surface des choses, mais le fond des choses t'échappe. C'est Dieu qui donne un corps comme il a voulu. Et ensuite, alors, puisqu'il donne un corps comme il a voulu, en partant d'une semence qui disparaît, et le résultat étant pourtant la continuation de l'espèce que Dieu, dès le début, avait ordonné. Alors, comment t'étonner de choses plus grandes, plus élevées, tenant à l'homme? Quant à savoir ce que seront ces corps, avec quels corps viendront-ils, ou ils pourront être extrêmement différents, les uns des autres, mais tous relèvent de la même puissance de Dieu. Et la nature est là pour se dire qu'il y a une extrême diversité, mais ordonnée selon la pensée de Dieu. À chacune des semences, son propre corps. Et alors, toute chair n'est pas la même chair. Alors, des comparaisons tirées, ou du moins des pensées tirées de l'observation de la nature elle-même. L'apôtre fait appel aux hommes, aux bêtes, aux oiseaux, aux poissons, voilà les choses terrestres. Et puis, il y a des corps célestes, ici il s'agit des mondes, des étoiles, des astres, et des corps terrestres, mais différents les uns des autres, et différents dans leur gloire. Mais tout cela selon la pensée de Dieu. Alors, quand les corps ressuscités seront là, il y aura une diversité extrême, mais chacun proclamant la même puissance, la même gloire de Dieu, la même puissance de Christ en résurrection, et tous tirant leur vie, leur gloire, leur existence même, de l'œuvre de la rédemption accomplie ici-bas, dans la mort. Ainsi aussi est la résurrection des morts.
L'expression de Philippiens 3 est à souligner. Il transformera le corps de notre abaissement. Et cet abaissement pour le corps peut aller jusque dans sa dissolution. Et même, pensée solennelle, la corruption peut s'y attacher. Un seul, entré dans la mort, n'y a pas connu la corruption. C'est l'homme Christ Jésus. Mais il transformera le corps de notre abaissement en la conformité, en la ressemblance du corps de sa gloire, et acceptons la force de la traduction. Ce n'est pas de son corps glorieux, mais du corps de sa gloire, selon le pouvoir qu'il a de s'assujettir même toute chose. C'est un mystère. Il n'y a pas de mystère pour la foi quand Dieu l'éclaire par sa parole et nous l'explique par son esprit. Alors nous l'aurons été rendu conforme. Maintenant, nous sommes transformés, allant de gloire en gloire dans la connaissance de celui à qui nous allons bientôt être faits semblables. La jouissance que Dieu nous accorde de celui qui est maintenant pour nous un sauveur glorieux, cette jouissance fait que nous connaissons cette transformation. De gloire en gloire, comme par le Seigneur en esprit. Mais alors, quand le corps aura connu sa délivrance, que la puissance de Dieu sera intervenue pour tirer de la mort, du sein de la mort. L'incrédule dit, ça n'existe plus. Mais est-il plus difficile à Dieu qui, de rien, a fait toute chose, est-il plus difficile, dans ce jour du triomphe définitif du Seigneur sur la mort, de rassembler et de redonner existence à ce qui lui appartient, même si nous guérions, la mort en a fait sa possession? Nous avons vite répondu, non, cela ne lui est pas plus difficile. Il est là.
normal que nous soupirions après la délivrance, comme dit Romains 8, la délivrance de nos corps. En attendant, comme on vient de nous le dire, nous pouvons contempler à face découverte la gloire du Seigneur. Et ce n'est pas du mysticisme, c'est tout simplement l'opération du Saint-Esprit par la parole dans une âme qui aime Christ, qu'il cherche. Et il y a là le développement, c'était moral, le développement de l'âme, elle mûrit dans l'intelligence et la jouissance de la gloire de Dieu en Christ. Car nous ne connaîtrons Dieu qu'en Christ, toujours. Ce sont des réalités beaucoup plus, si on pouvait oser dire, plus tangibles que la matière. Que personne ne pense qu'il faut faire un effort mental pour nous, aucunement. C'est ce que le Saint-Esprit produit dans l'homme renouvelé. L'homme intérieur se développe de jour en jour, non pas quant à sa constitution, mais quant à sa joie dans les choses de Dieu, son intelligence dans les choses de Dieu. L'homme intérieur, c'est toujours le nouvel homme. Avec les corps nouveaux, nous n'avons que l'Écriture. Elle ne dit pas grand-chose, en somme. Mais le Saint-Esprit peut nous satisfaire entièrement avec l'Écriture, et nous ne demandons rien d'autre. L'homme, et c'est vrai pour un chrétien, a fortiori, l'homme ne s'élève pas par ses capacités. Il s'élève par ses besoins. Parce que ses besoins, il connaît Dieu. Et le seul chemin de l'élévation pour l'homme, c'est le progrès dans la connaissance de Dieu. D'abord, la connaissance pour être à lui, et ensuite, la connaissance de Dieu dans ce qu'il est, pour jouir de plus en plus de sa nature. Dans tout ce qu'il est, dans sa nature essentielle, lumière et amour. Voilà ce que nous devrions manifester ici-bas, du plus jeune chrétien au plus âgé. En attendant la résurrection. C'est le seul remède contre la mort. Cette vérité n'était pas du goût des Athéniens, ni non plus de Festus et de beaucoup d'autres.
Nous avons le privilège de chanter le verset 2 du Cantique 124 en pensant à d'autres aussi qu'à ceux qui sont morts, endormis en Jésus. Ce corps se relèvera, c'est le nôtre, mes chers amis, tel qu'il est maintenant un corps d'abaissement. Chantons ces versets 2 et 3 du 124e.